et je m'y reconnais parce que tous les élèves s'assoient au fond. Sommes heureux de passer ce moment avec vous et surtout heureux de pouvoir partager quelques mots. Et pas de nous. Nous, on n'a pas grand-chose d'intéressant à vous dire. C'est vrai que bon, le temps n'est pas terrible, donc on est mieux ici qu'au bord du lac. Mais néanmoins, on n'a pas grand-chose d'intéressant à vous dire. On n'a pas des vies intéressantes. On n'a pas des talents particuliers. Mais par contre, il y a quelqu'un qui, dans notre vie, est une personne extraordinaire. Et cette personne, elle vous veut du bien. Et c'est pour cela que nous sommes là cet après-midi. C'est pour cela que nous partageons ces choses. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Nous, on ne veut pas parler de nous, mais on veut partager la personne de Jésus-Christ. Et vendredi, on est là depuis vendredi, nous avons partagé sur le salut, que Dieu veut sauver toutes les personnes. Dieu veut sauver chaque personne, les jeunes, les vieux, les petits, les grands. Hier à la réunion de jeunesse, nous avons vu que être sauvé, c'est vivre. Vivre. Et je vous pose la question, vivez-vous vraiment ? Vivre, ce n'est pas avoir un masque. Ce n'est pas rire au milieu des copains et puis vivre la misère à la maison dans son cœur. Mais l'Évangile nous montre que la vie, ça commence à l'intérieur, la vie. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et j'ai connu l'Évangile enfant. Un jour, quelque chose s'est passé, mais je dois reconnaître que j'avais envie de vivre, mais je n'avais pas la vie en moi. J'étais malheureux, soucieux, j'étais dans un mal-être. Et Jésus-Christ libère, Jésus-Christ donne un sens à l'existence. Ce matin, nous avons vu que être sauvé, c'est croire. Et la foi est une force, la foi est une bénédiction. Et cet après-midi, j'aimerais vous partager que être sauvé, c'est savoir. Savoir où on va, savoir en qui on a cru, savoir sur quoi nous nous appuyons. Et dans l'Évangile, le moment le plus particulier de l'Évangile, certainement que c'est ce moment où Jésus a été mis sur la croix du calvaire. Quand vous lisez la Bible, vous apercevez que oui, c'est beau les miracles. Et Dieu fait des miracles, sinon Dieu n'est plus Dieu. Moi, je ne peux pas faire des miracles, mais il n'y a rien d'étonnant. Moi, je suis un homme limité. Mais Dieu, c'est infini. Dieu, c'est l'absolu. Dieu fait des miracles, mais il n'y a rien d'extraordinaire à dire que Dieu fait des miracles. Il est Dieu. Dieu aime les hommes, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Il est Dieu. Dieu connaît, sonde le cœur et les reins. Ça veut dire qu'il lit en toi comme un livre ouvert. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Il est Dieu. Mais Dieu veut s'approcher de toi. Ça, déjà, c'est un peu plus extraordinaire. Parce que parfois, on aime les gens tant qu'on ne les connaît pas. Et puis, dès qu'on commence à les connaître, on dit, oh là là, caractère trop compliqué, susceptible, je vais voir quelqu'un d'autre. Mais Dieu, lui, nous connaît. Et il veut s'approcher de toi. Dieu t'aime. Il veut faire une œuvre dans ta vie. Et pour cela, il a envoyé Jésus. Jésus n'est pas venu pour... éblouir les gens. Jésus n'est pas venu pour du succès selon la mentalité humaine, c'est-à-dire avoir que des gens d'accord avec lui. Jésus est venu dans un but. Et ce but, c'est d'offrir sa vie. Que sa vie soit donnée comme une rançon. Et c'est ça le cœur de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu vas voir un médecin, il te donne un médicament. Et si tu prends ce médicament, que tu sois un malade français, un malade chinois, un malade anglais, un malade australien, si vous avez la même maladie, tu prends ce médicament, et ce médicament va te donner de guérir, de t'en sortir. Jésus est le remède suprême. Jésus n'est pas un médicament pour guérir le foie, les reins, pour guérir le rhume. Mais il y a une réverbération. Pourtant, il n'y en a qu'un, je suis tout seul à parler. Mais Jésus est le remède qui guérit l'homme au plus profond de son âme, au plus profond de sa vie. Le Seigneur a été mené sur la croix. Et sur cette croix du calvaire, il y a une parole sur laquelle j'aimerais m'arrêter cet après-midi et vous amener avec moi, c'est une prière. Jésus a prié même sur la croix, alors que les clous étaient dans ses mains, qu'ils étaient dans ses pieds, qu'il avait du mal à respirer, qu'il était plein de sang, il était en train de mourir. Il avait mal, il souffrait. Et Jésus va faire cette prière. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est sur cette prière que j'aimerais prendre quelques minutes avec vous, que j'aimerais attirer votre attention. Et on va faire cette lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 23 et au verset 26. Luc, chapitre 23 et le verset 26. Nous lisons ceci, Luc chapitre 23 et le verset 26, « Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. » Vous arrivez à suivre ? Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici, des jours viendront où l'on dira heureuses les stériles. Heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité, alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? Amen. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres. » Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. » Il était déjà environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Quand la neuvième heure, c'est-à-dire trois heures, jusqu'à la neuvième heure, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. Amen. » Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Elle est étonnante cette parole. Comment on peut dire de gens qui sont là, de gens qui sont en train de l'insulter, qui sont en train de vomir leur haine, leur colère, comment on peut dire comme ça, ils ne savent pas ce qu'ils font? Et avant d'entrer un petit peu dans le vif du sujet, je vous interpelle en vous posant la question. Monsieur, madame, est-ce que vous savez toujours ce que vous faites? Est-ce que vous savez toujours ce que vous dites? Est-ce que vous mesurez la conséquence des décisions que vous avez pu prendre? Eh bien, moi, je vous le dis, non. Et je ne vous le dis pas pour vous, je ne vous connais pas et je ne vous juge pas. Mais je le dis pour moi-même. Combien de fois dans ma vie, quand j'ai pris conscience de paroles, d'attitudes, de gestes menaçants, de craintes, de peurs, de doutes, parfois de décisions prises à la va-vite, combien de fois j'ai regretté, combien de fois j'ai pleuré, combien de fois j'ai dit « mais quel minable !» Heureusement que j'avais le secours de la prière. Mais je comprends qu'une vie peut être brisée. Je comprends qu'un avenir peut être cassé. Parce que quand on est sans Dieu, on est aveugle. On vit des opportunistes de la vie. On essaye de profiter de ce qui nous semble bon. La Bible dit que chacun suivait son chemin pensant qu'il était bon. Mais l'issue de cette voie, c'est la mort. Jésus a prié, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Et l'évangile, c'est de nous sortir des ténèbres, c'est-à-dire de l'inconscience, de l'ignorance, pour nous amener à son admirable lumière, c'est-à-dire à la connaissance, à la révélation, à la compréhension. Et quand on vient à son admirable lumière, c'est terrible, parce que l'on prend conscience du péché, on prend conscience de l'état de notre cœur, on prend conscience que nous pouvons être méchants. Et écoutez, il n'y a pas eu beaucoup de méchanceté là dans ce texte que nous venons de lire. Autour de la croix de Jésus, quelle méchanceté! Mais l'homme n'a pas changé. On pleure pour deux policiers qui ont été sauvagement assassinés. Et à côté de cela, dans une manif, ils se prennent des cailloux, des poubelles, des grilles, des balles. C'est du cinéma tout ça. Il y a de la violence dans le cœur de l'homme. Il y a de la folie dans le cœur de l'homme. Et c'est à cause de cet aveuglement que sans Dieu, votre vie se perd et se détruit. Cherchant une solution, on s'enfonce dans le problème. Cherchant à s'en sortir, on empire la situation. Et on parle et on dit, mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et j'aimerais m'arrêter quelques instants pour voir un petit peu quelle sorte de gens étaient là et en quoi ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Le premier homme dont on entend parler au verset 26, c'était un homme qui s'appelle Simon de Cyrène. C'est un drôle de nom, hein ? Moi, je m'appelle Duba, mais direz-vous que Simon de Cyrène, c'est un peu mieux quand même. Bon, mais dans le ciel, on aura un nom nouveau, je ne me rappellerai plus Duba, mais peut-être Duo. Simon de Cyrène. Jésus a prié, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Seigneur, tu exagères. Pourquoi tu dis que cet homme ne savait pas ce qu'il faisait? C'est un homme qui revenait des champs et il s'est retrouvé là à croiser Jésus pendant qu'on conduisait Jésus sur ce chemin de Golgotha, qu'on allait le crucifier et on l'a pris de force et on l'a obligé à forcer, on l'a forcé à porter la croix. Et l'une des premières catégories qui est aveugle, c'est les gens qu'on force. On ne peut pas vous forcer à devenir un chrétien. On ne peut pas vous forcer à faire la paix avec Dieu. Vous avez entendu le témoignage de la dame qui est ma femme, qui vous a dit, voilà, j'allais à l'évangile, j'écoutais, je ne voulais pas. Et on peut vous donner une Bible, vous apprendre comment on prie, comment on chante, comment on se tient bien, comment, j'en sais rien, mais on peut vous apprendre un tas de trucs. Mais on ne peut pas vous forcer à faire la paix avec Dieu. tu peux venir là, je peux crier, je peux hurler, je peux essayer de trouver tous les arguments, te coincer. Tu diras oui, c'est vrai, etc. Mais si, dans ton cœur, il n'y a pas eu un désir, une décision, ça ne servira à rien. Tu es aveugle parce que tu te sens contraint. Et Dieu ne nous force pas. Dieu ne nous force pas. Il ne nous force pas à coups de bombes, à coups de terroristes, à coups de menaces. Il ne nous force pas. Jésus a dit, venez à moi. Il nous invite. Il nous invite. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et peut-être que parfois tu te sens forcé par des hommes, par des femmes, par le pasteur. Je le connais, ouais, je le connais le pasteur, il m'a baptisé. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne connais pas votre vie. Des fois, il m'est arrivé, moi, de parler avec « Alors, quand c'est vous faites baptiser ? Alors, qu'est-ce que vous attendez ?» Parce que nous, on sait que la vie avec Dieu, c'est le meilleur. Mais au bout du compte, on ne peut pas forcer. On ne peut pas contraindre quelqu'un. Et ça, c'est un élément qui faisait que cet homme-là était aveugle. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il est parlé de femmes. Il est dit des femmes qui se frappaient la poitrine et elles pleuraient lorsqu'elles voyaient Jésus. Alors peut-être me direz-vous, mais quand même dans le nombre de tous ces gens qui étaient là, ce n'étaient pas les pires. Mais on n'est pas là pour dire qui était le pire. On est là pour essayer de comprendre en quoi elles étaient aveugles. Et ces femmes étaient des aveugles. Parce que ces femmes ne vivaient que par l'émotion. Elles se frappaient la poitrine. Elles pleuraient sur Jésus parce qu'elles comprenaient que quelque chose de mal était en train de se passer. Elles comprenaient que quelque chose de pas normal était en train de se passer. Elles pleuraient dans leurs émotions. Mais elles allaient rentrer chez elles et leur vie allait reprendre le cours. Le Seigneur leur dira, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous. Oh, Seigneur, tu dis ça, mais on va te clouer sur une croix. On va te mettre à mort sauvagement. Ces femmes, elles ne sont pas inquiétées. Mais Jésus, quand il parle toujours sur le plan de l'éternité. Pas juste, oui, aujourd'hui, c'est moi qui suis mis à mort. Mais si ces femmes restent justes, dans une conception émotionnelle, eh bien, elles mourront dans leur péché. Et quand elles seront devant Dieu, elles seront condamnées. Ce qui m'amène à réaliser que le salut et l'évangile, ce n'est pas quand on pleure sur les autres, mais c'est quand on commence à pleurer sur soi. Ça s'appelle la repentance. Et ces personnes étaient aveugles parce que elles s'apitoyaient, elles pleuraient, c'est bien. Sur les autres, elles étaient sensibles à la misère, aux problèmes. Mais eux, elles ne changeaient pas. Et puis, il y a une autre catégorie. C'est les malfaiteurs. Les malfaiteurs. Et si vous lisez l'évangile, parce qu'il y a Matthieu, Marc, Luc, c'est les évangiles synoptiques, on appelle, des parallèles. Et c'est trois évangiles, c'est quatre évangiles même avec Jean, qui forment le témoignage complet. Mais si vous lisez les évangiles, vous apercevrez que les deux brigands se moquaient de Jésus. Ils étaient furieux. Ah, ils étaient furieux. Et en quoi, eux, ils étaient aveugles ? Et ils étaient aveugles parce que, eux, ils considéraient la vie de cette manière. Pas vu, pas pris. Ce n'étaient pas des gens qui cherchaient à marcher droitement. Ce n'étaient pas des gens qui cherchaient à vivre dans la vérité, à avoir un petit peu de morale, même si ce n'est pas ça qui change l'être humain. Mais au moins, il y a des gens meilleurs que d'autres, il y a des gens pires, on ne peut pas dire que... Mais eux, pas vu, pas pris. Toute leur vie, ils ont essayé de dire pas vu, pas pris, pas vu, pas pris, pas vu, pas pris. Ils ont essayé de jouer avec les circonstances pour essayer de s'en sortir et de s'en tirer. La caissière, elle se trompe sur l'argent, tant que personne ne s'en aperçoit, pas de problème. Là, l'autre, il fait tomber son porte-monnaie, tant que personne ne s'en aperçoit, je mets dans la poche. Je peux gratter la place de mon collègue en me faisant mousser un peu auprès du patron, pas de problème. Et toute leur vie était vécue sur cette base. Tout ce que je peux tirer, tout ce que je peux gratter, tout ce que je peux prendre, tout ce que je peux profiter, j'en profite. L'essentiel, pas vu, pas pris. Et il y a des gens comme cela qui osent vous dire, mais moi, mais vous ne me connaissez pas, monsieur, je suis le meilleur, parce qu'ils n'ont jamais été pris. Mais là, ils s'étaient fait prendre. Et au lieu de reconnaître, et l'homme va le reconnaître, on va voir un peu plus tard que l'un des brigands va dire « Mais nous, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Mais avant d'en arriver là, ils étaient révoltés. Au lieu de le reconnaître, ils étaient en disant « C'est une erreur judiciaire, c'est pas normal, etc. » Et il y a des gens comme ça. Ils sont aveugles. Parce que tout ce qu'ils font, c'est dans l'esprit de ne pas être pris. Et quand ils se font prendre, ils vont chercher toutes sortes d'excuses, toutes sortes d'alibis, toutes sortes de trucs. Ils vous disent, c'est des champions de... c'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est lui, c'est elle. Et ils se sont fait prendre. Et puis, entre parenthèses, il y avait un troisième avec eux. Parce que ces gens, ils diront, nous méritons ce qu'ont mérité nos crimes. Ils étaient avec Barabbas. Et Barabbas aurait dû mourir avec eux. C'était le troisième qui aurait dû porter la troisième croix. Et quand Pilate a mis Jésus et Barabbas, il a dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Parce qu'on avait la coutume de libérer un homme. Les gens criaient, libère Barabbas. Et ces deux compères, eux, sont condamnés à mort. Ils étaient en colère. Nous, on meurt et l'autre, il s'en sort à cause de ce Jésus-là. Pas vu, pas pris. J'aimerais te dire, mon ami, tu peux passer au travers des mailles du filet de la justice ici-bas. Mais un jour, faudra rendre compte pour tout. Et c'est pas en disant, lui est pire que moi, elle est pire que moi. Mais c'est en osant rencontrer le juge qui gracie les hommes. Jésus est mort pour cela. Et il est mort pour toi. Que son nom soit béni. Et puis, il y avait, au verset 35, les magistrats. Les magistrats. Ceux-ci se croyaient intouchables parce qu'ils avaient l'habitude de rendre justice. Et à force de rendre justice, eh ben, ils se pensaient au-dessus de la justice. Ça se voit encore aujourd'hui, sans jeter des pierres. Sans jeter des pierres, à force de rendre justice, de prononcer la loi, de devoir, eh bien, départager les parties, condamner les uns, libérer les autres, etc. On peut finir par croire que la justice, c'est moi. La justice, c'est pas toi, tu es un serviteur de la justice. Et même le serviteur de la justice peut se retrouver un jour injuste. Oui ou non? Et eux, ils étaient là devant Jésus. Ils étaient du côté de ceux qui donnent justice. Et ils étaient aveugles parce qu'ils se pensaient au-dessus du condamné. Et peut-être que tu as réussi à arriver à cette place qui te permet d'être à la tête des hommes. Et c'est toi qui rends justice. Je fais ce que je veux, comme je veux. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous vous rendez compte? Pilate avait pu dire de Jésus, mais cet homme, il est innocent, il n'a rien fait qui mérite la mort, il n'a rien fait de mal. Et ces hommes l'ont jugé, condamné à mort, cloué. Comment justifier cela? Et tellement souvent, quand nous rendons justice, quand nous parlons les uns sur les autres, ne nous arrive-t-il pas de condamner rapidement? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans un autre évangile, ne pas là, mais on aurait pu aussi le trouver ici, ce sont les principaux sacrificateurs, c'était les gens religieux. Et eux, ils représentent ceux qui ont de la religion, capables de bonnes œuvres, de bonnes paroles, mais ils sont aussi capables du pire. Et la religion ne change pas l'homme, vous savez. La religion ne change pas l'homme. Ce que nous avons besoin, ce que j'ai besoin, c'est de rencontrer Dieu. Celui qui peut changer votre vie, vous libérer. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur, c'est le Dieu de la vie. Ces gens, ils avaient pris l'habitude, ils allaient à l'office, ils chantaient, ils priaient, ils faisaient toutes sortes de rituels, etc. Mais au fond, de leur cœur, ils étaient comme des gens qui sont séparés et loin de Dieu. Comprenez-vous ? Et puis, il y a cette dernière catégorie, c'est les soldats. C'est les soldats. Et il y en a encore un, mais... Les soldats se moquaient de Jésus. Et si vous lisez le texte, vous verrez qu'il dit « Ah, si tu es le fils de Dieu, toi, le roi des Juifs, descends de la croix. » Et ils se moquaient de Jésus parce que eux, ils considéraient la force. Et Jésus avait l'apparence d'un faible. Eux, ils considéraient les leaders politiques, les leaders militaires. Ils étaient impressionnés par les muscles, par la force de la pensée, la force du verbe. Ils cherchaient des leaders, des hommes forts pour les diriger. Et ils ne reconnaissaient que cette règle. Ils aimaient paraître forts. Et il y a des gens aujourd'hui qui ne jurent que par cela. La force de la pensée, la force de l'humanisme, la force de du cœur humain, la force de l'homme, la force de la stratégie, la force du bien, la force. Et on se confie dans la force de l'homme. Mais permettez-moi de vous dire que parmi tous les hommes forts qu'il y a sur la terre, lequel a vaincu la mort ? Je voudrais vous poser la question. Un jour, bon, j'en ai plein des témoignages. J'ai pas voulu m'engager dans cette voie parce que l'heure tourne. Mais j'en ai entendu des gens me dire, moi, j'ai pas peur de la mort, je me battrai jusqu'au bout. J'ai dit, ben allez-y, vous battrez jusqu'au bout, mais vous tomberez comme tout le monde. Parce que malgré la force, qui a vaincu la mort ? Qui a vaincu la mort ? Je vous racontais une petite anecdote. J'ai eu l'occasion d'aller dans la marine pendant 2 ans. Et un jour, dans un contexte un peu particulier, au large de Djibouti, nous étions dans une mission. Et j'avais ma Bible comme ça, j'allais dans un endroit où j'avais l'habitude d'aller pour prier, pour lire ma Bible, et louer le Seigneur, chanter les cantiques, c'était bon, on voyait l'océan, les poissons volants, la mer bleue turquoise, c'était vraiment bien. Et quand j'arrive dans cet endroit, il y avait 2 officiers de l'armée de l'air, hélicoptère. Donc une Bible sous le bras, ils me regardent, bonjour, bonjour, moi je dis mince, il y a du monde. Alors la conversation a commencé à s'établir, bonjour, là, tu viens faire quoi ? Ben je viens prier, j'ai dit ah bon, tu viens prier, tout ça. Et au bout d'un moment, l'un des officiers me regarde, il me dit mais ton truc là, c'est pour les faibles. Ah, je l'ai regardé. Et je me suis dit, mais il a raison en fait, c'est pour les faibles. Et pendant quelques secondes, je ne savais pas quoi dire. Mais une pensée est venue, j'ose croire que peut-être Dieu est venu à mon secours. Et j'ai dit, monsieur, vous avez raison, c'est pour les faibles. Mais je vais vous dire une chose, je suis heureux d'un jour avoir reconnu que j'étais faible. Parce qu'aujourd'hui, avec Jésus-Christ, je suis fort. Il est ma force. Mais vous montrez une apparence de force, mais vous êtes faible. Je risquais rien, j'étais dans la marine, il était dans l'armée de terre, il ne pouvait rien me faire. Et comme j'étais en cuisine, s'il m'avait fait quelque chose, j'aurais mis du piment dans son assiette. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé ? L'homme, il s'est effondré. Il a commencé à me parler de sa famille, de ses enfants, de son mal-être, il a commencé à me dire, c'est vrai ce que tu dis, jeune homme. Je pars pour les missions, mes enfants, je vois qu'ils partent à droite, à gauche. Je ne sais plus où j'en suis. Et on est là, et on doit aller sur des conflits. Il a commencé à parler. Et c'est vrai que l'évangile a l'air d'une faiblesse. On te tend une joue, on te frappe, tu tends l'autre joue. Mais vous croyez que la rancune, ça rend fort ? La rancune, ça rend idiot. La vengeance, ça détruit la vie de celui qui la porte et de ceux qui vivent avec. Ça détruit la vie, le péché. Qui est fort ? Personne. 2 guerres mondiales ? Des meurtres ? Des enfants sont capables de mettre des coups de couteau, vous l'avez entendu aux actualités ? À Vénissieux, c'est à 1 kilomètre de chez nous. Des gamins ? C'est ça la force. Tu n'as pas de force. Tu rêves d'une vie, mais tu ne l'atteindras jamais. Tu rêves d'une vie de famille que tu n'auras jamais, parce qu'il y a en toi une source polluée que seul Jésus-Christ peut vaincre, peut te sauver. Et puis, la Bible nous parle aussi des curieux. Il y avait le peuple qui se tenait là et qui regardait. Et ces hommes étaient aveugles parce que c'était des curieux. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des curieux qui peuvent vous parler de tout, mais qui ne poursuivent aucun but. Il m'est arrivé comme cela de côtoyer des gens, ils vous parlent de la guitare, ah, ça a été créé en telle année, avec tel bois, les cordes sont dans telle matière, ils ne savent pas jouer de la guitare. Ils vous parlent de la chimie, ils vous parlent de l'histoire, ils vous parlent de Louis XIV, ils vous parlent de l'espace, ils vous parlent de la religion, ils vous parlent de tout, mais dans leur vie, ils poursuivent aucun but. Il y a un moment donné, c'est bien d'être curieux, c'est bien de s'intéresser. Je ne suis pas en train de vous dire le contraire. Mais Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y a une autre catégorie. Et c'est vous. Et c'est moi. Cet après-midi, mon ami, ce que j'ai partagé, c'est simple. Mais j'aimerais te demander, où vas-tu ? Sais-tu où tu vas ? Sais-tu ce que tu fais ? J'aimerais vous dire, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 2000 ans, un homme a prié aussi pour vous ? Moi, je cherche dans mon entourage, maintenant je connais le Seigneur, je connais des gens qui ont des sentiments un peu meilleurs, mais avant de connaître l'Évangile, j'ai beau chercher dans mon entourage, je vois aucune personne qui aurait été capable, dans une grande souffrance, de prier pour ou de vouloir du bien à d'autres, à ce point-là. Je ne vois pas cela. Et le Seigneur Jésus, il est unique. Le Seigneur Jésus, il est au-dessus de tout. Il est ton sauveur. Il est celui que Dieu a envoyé pour toi. Et faire la paix, recevoir Jésus, se laisser toucher par lui, c'est simple comme une prière. C'est quoi la prière ? La prière, c'est simplement parler avec son cœur. Et quoi que tu aies fait, si maintenant, dans ton cœur, c'est entre toi et lui, tu confesses de ta bouche que tu acceptes Jésus-Christ, que tu le reconnais comme Seigneur, que tu l'appelles à ton secours, « Viens en moi, Seigneur !» Eh bien, ce prince de la vie, ce roi de la vie, ce Dieu de la grâce, il rentrera en toi. Il te libère, il te guérit, il te restaure. Quel amour ! Quel amour ! Connaissez-vous quelqu'un qui vous veuille autant de bien que Jésus ? Connaissez-vous quelqu'un qui vous veuille du bien autant que Jésus ? Moi, je ne connais personne. J'ai une maman qui m'aime grand comme ça. C'est normal, je suis son fils. Mais des fois, je ne suis pas toujours aimable. Et des fois, quand les crises, ça crise. Là, je vois des sourires, donc ça crise aussi chez vous. L'amour de Dieu, c'est un amour que rien ne peut mesurer, que personne ne peut sonder. L'amour de Dieu. J'aimerais qu'on prie ensemble. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, merci pour